Europe 1 13h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 13h21. Vous écoutez Céline Géraud et vous décryptez Céline aujourd'hui. L'actualité de ce vendredi 26 avril avec l'avocat Gilles William Goldnadel et le magistrat honoraire Philippe Bilger.
Bonjour messieurs, bienvenue à bord.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous en direct pour décrypter l'actualité. Alors évidemment, ça ne vous a pas échappé. Plus d'une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens ont occupé une nouvelle fois le bâtiment de la rue Saint-Guillaume, Sciences Po Paris. Ils réclament la condamnation des agissements d'Israël par Sciences Po et également une renégociation des partenariats de Sciences Po. C'est-à-dire que Sciences Po boycotte les universités et les entreprises qui ne dénoncent pas ce qu'ils qualifient de génocide palestinien. Et ce matin, eh bien, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, leur a envoyé un petit message. Écoutez.
Je voulais à tout prix vous adresser le salut le plus reconnaissant et le plus admiratif pour le travail que vous avez engagé en occupant les lieux et puis ce matin en vous rassemblant. Vous êtes à cet instant, pour nous, l'honneur de notre pays, l'image la plus forte que nous puissions donner du fait que les Français n'acceptent pas, ne se résignent pas, ne laissent pas faire sans agir l'odieux, l'abominable massacre, le terrible génocide à Gaza. Vous serez bien sûr soumis à toutes sortes de pressions et de brutalités, mais j'ai la certitude que vous y résisterez et que, en le faisant, vous encouragerez d'autres consciences, d'autres actions à se mettre en mouvement.
Voilà, les étudiants, après le message donc, qui a été diffusé devant le bâtiment de Sciences Po à tous ces manifestants, Gilles William Goldnadel, une réaction, vous comprenez, vous êtes choqué par ce blocus?
Choqué est un doux euphémisme. En vérité, il singe ce qui se passe actuellement sur les campus américains. Mmh. Mais à leur manière, vous avez bien vu qu'ils sont cornaqués par le chef des Insoumis. Mmh. Et alors, là où on est
dans... Le prophète, presque.
Pardon ?
Enfin, le prophète,
oui,
presque.
Oui, bien sûr, d'une certaine manière. Oui. Alors, il y a des filles voilées, il y a tout ce qu'il faut. Mais le comble, pour moi, de l'ignominie, chaque mot étant pesé, c'est l'utilisation du terme génocide.
Oui.
La présidente de la Cour internationale a encore dit, je crois, hier, que jamais la Cour internationale n'avait envisagé qu'il y avait un génocide. Mmh. Ils ont parlé d'un risque de génocide, comme dans tout conflit. Mmh. Mais ça y est, le mythe est installé, et je ne crains pas de faire la comparaison avec le même mythe qui était, de manière ancestrale, les bébés chrétiens que les Juifs empoisonnaient à Pâques. Mmh. C'est exactement de la même mauvaise farine. Mais on en est là, il faut bien le comprendre.
Pour le président du CRIF, hein, ce mouvement n'a rien de massif, mais il fait peser, dit-il, un climat de terreur intellectuelle sur une partie des étudiants juifs. Philippe Bilger, magistrat honoraire.
Au risque de rendre notre dialogue un peu consensuel, je rejoins évidemment totalement Gilles William sur ce qu'il vient de dire au sujet du génocide. Et pour ma part, il y a quelque chose d'autre qui m'indigne. Quand il ose parler de
Jean-Luc Mélenchon,
de honte, absolument de honte et d'honneur, alors que pour moi c'est l'ignominie et le déshonneur qu'un homme comme lui, qui a connu dans le passé parfois des éclairs d'intelligence et de lucidité, ose parler de la sorte à une minorité qui est en train de dévoyer le militantisme, qui investit Sciences Po et paraît-il, on l'a appris tout à l'heure, enfin, la ministre de l'université serait intervenue en indiquant que la ligne rouge serait dépassée.
Eh bien justement, on va tout de suite filer rue Saint-Guillaume, retrouver tout simplement l'envoyé spécial d'Europe 1, Guillaume Dominguez, qui est avec nous en direct dans Europe 1 13h. Il y a du nouveau, Guillaume Dominguez.
Et oui, les manifestants viennent de faire une déclaration au mégaphone depuis le premier étage du bâtiment. Alors la direction de Sciences Po leur a posé une sorte d'ultimatum. Soit les étudiants lèvent le campus et désignent des représentants du mouvement pour discuter des revendications, soit la direction prévient qu'elle déplacera la date des examens à la fin juin, ce qui forcerait les étudiants à rester à la fac un mois de plus. Et les étudiants ont une quarantaine de minutes pour donner une réponse et à l'instant, là, au moment où je vous parle, un vote est en train de s'organiser dans l'assemblée devant le bâtiment de Sciences Politiques. Ils ont quelques minutes pour prendre une décision. Une chose est sûre, la direction de Sciences Politiques a d'ores et déjà annoncé qu'il n'était pas question de rompre les liens de l'université avec Israël.
Merci pour ces précisions, Guillaume Dominguez. Vous voyez, on a l'information effectivement.
Absolument.
En direct. C'est assez stupéfiant quand même ce qui se passe, ce bras de fer.
Pardon, peut-être suis-je ignorant des détails de ces manifestations, mais examiner leurs revendications, ça veut dire quoi? Quelle légitimité ils ont en occupant Sciences Po, d'une manière d'ailleurs même plus militante, d'une partialité absolue et scandaleuse.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la sociologie de cette université, voilà, qui bascule dans une autre dimension.
Oui, encore une fois, c'est une occupation illégale par une cinquantaine de personnes. Je ne suis même pas sûr que tous soient de Sciences Po, d'ailleurs. Il faudrait vérifier. Et au nom de cela, plutôt qu'ils soient arrêtés par la police, ensuite exclus éventuellement pour ceux qui appartiennent à Sciences Po, au nom de ça, on va défavoriser les étudiants sérieux en déplaçant la date des examens. Mais c'est dénué de tout sens. La réalité, elle est là. Mais il ne faut pas perdre de vue ce qui est bien plus grave et ce qui se passe actuellement aux États-Unis, où le wokisme règne en maître, ne jamais séparer cet antisémitisme-là d'un racisme anti-blanc.
On va prolonger le débat dans quelques instants avec vous et avec Chloé, qui est professeure, et sa fille est à Sciences Po. Et elle va nous raconter, ça va être très intéressant, les coulisses. Elle est outrée par la situation. Sa fille, évidemment, vit cette situation de plein fouet. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
13h14, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. 13h32, bienvenue sur Europe 1. Le débat continue dans Europe 1 13h avec vous, Céline Giraud, et vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, et Gilles William Gonadel, avocat essayiste.
Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 14h. Si, comme chaque jour, vous voulez réagir, interagir aussi avec nos chroniqueurs, eh bien n'hésitez pas, 01 80 20 39 21. On poursuit l'échange autour de ce blocus du côté de Sciences Po. Une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens ont occupé une nouvelle fois le campus. Et on est avec Chloé. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci de me recevoir dans votre émission.
Merci beaucoup de nous appeler. Vous nous écoutez en Ile-de-France. Alors, je précise pour nos auditeurs que vous êtes professeur, mais que votre fille est à Sciences Po Paris. Racontez-nous.
Mais écoutez, ma fille est à Sciences Po. Et c'est vrai que, écoutez, moi, je voulais réagir parce que souvent, on associe Sciences Po à des fils ou filles à papa qui sont issus de... les parents ont fait Sciences Po, etc. Et moi, c'est pas du tout le cas de ma fille qui a vraiment réussi Sciences Po par rapport à son mérite, parce qu'elle travaillait très bien depuis son plus jeune âge. Donc ça, c'est une première chose. Et là, je viens en plus d'apprendre que les examens allaient peut-être être reportés, alors qu'il y a une cinquantaine ou 70 étudiants qui...
Ce que nous disait Guillaume Dominguez, les examens pourraient être reportés d'un mois.
Moi, je trouve que c'est vraiment une prise de tâche parce que les examens, en principe, c'est le 15 mai, donc avec des personnes qui doivent faire des stages, etc. Moi, je trouve que c'est quand même pas... C'est pas normal qu'il y ait une prise de tâche et que Sciences Po se résume justement à ce mouvement, alors qu'il y a de nombreux étudiants qui font même pas forcément de la politique tout en...
Racontez-nous, Chloé, justement, votre fille, comment vit-elle la situation?
Disons qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas possibilité à Sciences Po d'avoir sa propre conscience politique. On en a puisé des idées à droite et à gauche, mais on est obligé d'embrasser l'ensemble des considérations d'un parti. Et si, par exemple, là, elle leur dit « Mais attendez, vous ne parlez pas des otages, vous ne condamnez pas vraiment le Hamas », à ce moment-là, elle se fait traiter de fasciste et ça va pas du tout, quoi.
Ah oui, d'accord, carrément. On la traite de fasciste. Donc il y a une pression qui s'installe et que votre fille vit au quotidien. Elle est prise en otage aussi.
Disons que c'est une pression. À la limite, on ne peut rien dire. On ne peut pas.
Mais on entend. Vous vous attendiez à ce que ce soit comme ça, Sciences Po, quand vous avez décidé d'y inscrire votre fille?
Disons que ma fille, non, elle ne s'attendait pas à ce que ça soit comme ça. En plus, ce n'était pas des études, franchement, par rapport à la politique, mais pour un autre, un autre aspect. Elle ne s'attendait pas que ça soit en fait comme ça. Mais elle, justement, ce qu'elle reproche à ce qui est dit, c'est qu'ils ne parlent pas de tragédie. Ils ne parlent pas de pogrom. Pour eux, en plus, c'est une association qui s'est faite le 11 octobre, parce que c'est un peu ce qu'elle m'a dit, et ils ne parlent que de tragédie.
Merci.
Voilà.
Merci Chloé pour ce témoignage édifiant et ce retour d'expérience, hein, si je peux employer ce mot-là, de votre fille qui est donc étudiante à Sciences Po Paris, on le rappelle, et qui est outrée par ce qui se passe. Le report des examens, ça c'est terrible. On entendait d'ailleurs dans Europe 1 13h tout à l'heure des étudiants, hein, qui disaient « mais nous on est bloqués, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas aller étudier » chez le William.
Il y a un véritable mouvement là qui pratique une sorte de terrorisme intellectuel.
Mais il y a une dérive de cette
école. Non, mais c'est un mélange. C'est un mélange, si vous voulez, de gauchisme et d'islamisme. On est en plein islamo-gauchisme. La réalité est là. Donc il y a le terrorisme intellectuel. Il y a même des pressions physiques. Moi, j'ai vu des pauvres étudiants qui essayaient effectivement de dire ce que la fille de l'auditrice
de Chloé
disait. Il risque de se faire brutaliser. Mais je vous renvoie encore une fois à la situation américaine. Il y avait un bon article dans le Figaro du correspondant américain Adrian Jones hier. Il est sur les campus américains maintenant. Il y a de l'antisémitisme, clairement. Et il y avait un professeur qui faisait remarquer que si on disait le quart de la moitié de cela à propos de Noirs ou d'Arabes, ouais, ce serait considéré comme totalement insupportable. Et je vous désindique, il faut voir ça aussi, pas seulement sous l'angle de l'antisémitisme, mais sous l'angle aussi du racisme anti-blanc. Sinon, on est condamné à ne rien comprendre.
Au-delà de la contagion évidente avec la dérive des universités américaines, moi, j'ai un raisonnement peut-être limité, simpliste. Je vois l'incroyable nuisance d'une minorité activiste et délirante, tout de même. Et par moments, je me demande, au risque de tomber dans un discours qui place au premier point l'autorité, mais qu'est-ce qu'on est en train de transiger, de négocier, de pactiser avec ce groupe-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire preuve d'une forme de rudesse légitime et les sortir de Sciences Po où ils n'ont rien à faire? Franchement, est-ce que les majorités auront un jour le droit d'être respectées?